Si vous relisez le second évangile, vous vous rendrez compte que Marc, qui en est l'auteur, souligne souvent le regard de Jésus, beaucoup plus que les autres évangélistes. Quand les autres vont dire « Jésus dit », Marc va écrire « Jésus regarda et dit ». C'est un exemple. À plusieurs reprises dans l'évangile, selon Marc, l'auteur souligne le regard de Jésus sur ceux qui l'entourent, ses contemporains, ses disciples. Le regard de Jésus pour l'auteur du deuxième évangile était très significatif. Ce regard parlait autant que ses paroles. Et j'aimerais aujourd'hui regarder dans l'évangile selon Marc, justement, sept moments où Jésus va regarder d'une façon particulièrement significative ceux qui l'entourent. Le premier texte que j'aimerais regarder avec vous se trouve dans ce second évangile, l'évangile de Marc au chapitre 3, où il nous a rapporté un événement qui a eu lieu un jour de sabbat. Jésus est allé à la synagogue et il se présentait là un homme malade. Aussitôt, les Juifs se sont demandé ce que Jésus allait faire. Et Jésus connaissait leurs pensées. Et il va demander à cet homme de se mettre là, au milieu de tout le monde. Et il va poser la question, est-ce qu'il est permis de faire du bien, de guérir le jour du sabbat? Question difficile auquel personne n'a donné une réponse. Et vous vous souvenez comment Jésus va guérir cet homme devant tout le monde. Et puis, au verset 5, Évangile selon Marc, chapitre 3, verset 5, il est dit, « Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit et sa main fut guérie. » Marc a remarqué le regard circulaire de Jésus sur ces gens. Un regard, dit-il, d'indignation et puis en même temps un regard affligé à cause de l'endurcissement de leur cœur. Jésus nous regarde aussi aujourd'hui. Et comment nous regarde-t-il? Porte-t-il sur nous aussi un regard d'indignation, un regard d'affliction à cause de notre endurcissement, à cause du temps incroyable que nous mettons à l'accepter, à le recevoir comme notre sauveur? Est-ce que Jésus pose sur nous aujourd'hui un regard d'indignation, d'affliction? Parce que depuis longtemps, nous savons et nous ne faisons pas. Ou bien parce que nous avons construit, comme les gens de cette époque, mille et une barrières qui empêchent d'établir avec lui un vrai lien en profondeur. Jésus porte sur ces gens un regard d'indignation, d'affliction. Pourtant, ce sont des gens qui connaissaient la parole de Dieu, ce sont des gens qui pratiquaient. Ce ne sont pas, comme on pourrait le comparer aujourd'hui avec ces gens du dehors qui ne croient à rien. Non, ce sont les gens de l'Église qu'ils regardent avec indignation, avec affliction, parce que leur cœur est dur. Est-ce que Jésus nous regarde de cette manière-là aujourd'hui? Le deuxième regard de Jésus que j'aimerais souligner se trouve dans ce chapitre 3 de l'Évangile de Marc, un petit peu plus loin, à partir du verset 31, et j'aimerais lire avec vous le passage qui suit. Évangile selon Marc, chapitre 3, verset 31. Survinrent sa mère et ses frères, qui se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui, et on lui dit, « Voici, ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Il répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Les frères de Jésus, la mère de Jésus, avaient subi des pressions particulières de la part des religieux de l'époque pour faire arrêter ce ministère de Jésus. Et il les avait envoyés auprès de lui pour essayer de mettre pression sur lui. Jésus le savait. On lui dit, alors qu'il est en train d'enseigner, « Ta mère et tes frères sont là », comme pour dire, « Arrête tout, il y a priorité. » Et on pourrait avoir l'impression que Jésus ici manque de respect envers sa mère, envers sa famille. Il pose la question, mais qui est ma mère? Qui sont mes frères? Jésus veut donner ici un message clair que sa mère, ses frères, Jacques, Jude, Simon, les autres, n'ont pas un statut particulier auprès de lui à cause du fait qu'ils sont de sa famille. Jésus veut ici donner un message, mais enfin, ma famille, où est-elle? Ma famille, en fait, ce sont tous les êtres humains, famille à laquelle il appartient parce qu'il est né dans la famille humaine. Sa famille, ce sont tous les êtres humains qu'il est venu sauver. Mais plus précisément, dit Jésus, ma famille, ce sont tous ceux qui font la volonté de Dieu. C'est-à-dire dans cette grande famille humaine à laquelle il appartient, sa vraie famille, ses frères, ses sœurs, ce sont ceux qui ont choisi de le recevoir comme sauveur personnel et de lui obéir. Voilà, dit Jésus, mes frères et mes sœurs. Ce sont ceux qui sont autour de lui à ce moment-là et à qui il va donner priorité, non pas à sa mère biologique ou à ses frères et demi-frères, qui pensent avoir sur lui un certain droit parce qu'ils sont plus âgés que lui. Jésus démontre par là que sa famille, ce sont tous ceux qui, le recevant par la foi, veulent lui obéir. Dans le livre Jésus-Christ, je trouve cette phrase. Ceux qui acceptent Christ comme leur sauveur personnel ne sont pas laissés comme des orphelins pour porter seuls les difficultés de la vie. Jésus les reçoit en tant que membres de la famille céleste. Alors comment Jésus nous regarde-t-il aujourd'hui? Jésus nous regarde-t-il aussi comme des membres de la famille céleste? Ou Jésus nous regarde-t-il comme des étrangers, des gens qui ne veulent rien avoir à faire avec lui? Sommes-nous des étrangers pour Jésus ou sommes-nous des gens de la maison de Dieu? Quel regard Jésus porte-t-il sur nous? Le regard d'un frère, d'un grand frère, de celui à qui nous appartenons, de celui qui est de la même famille que nous, et qui est venu pour nous sauver, que nous avons reçu? Jésus nous regarde-t-il aujourd'hui comme ceux qui ont fait alliance avec lui, qui font partie de sa famille? Le troisième regard de Jésus qui a attiré mon attention se trouve un peu plus loin dans le chapitre 5 de l'évangile de Marc, où se déroule ici un certain nombre d'événements rapportés par l'évangéliste. Jaïrus, le chef de la synagogue, s'approche de Jésus et lui demande de bien vouloir venir guérir sa fille qui est malade. Jésus se dirige avec Jaïrus vers sa maison, mais beaucoup de gens sont là avec lui, et la marche est difficile. On imagine facilement Jaïrus impatient, parce que la situation est grave. Il voudrait que Jésus arrive avant que ce soit trop tard. Et puis en cours de chemin, Jésus est arrêté parce que tout d'un coup, une femme l'a touché sans qu'il le sache, et il a senti que cette femme l'a touchée avec foi pour être guérie elle aussi. Et Jésus arrête tout. Au verset 30, il est dit ceci. Évangile selon Marc, chapitre 5, verset 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se tournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Jésus a porté ses regards avec attention sur les gens qui sont autour de lui parce qu'il veut voir qui est cette personne animée d'une telle foi que sans rien dire à personne, elle est venue toucher son vêtement et a reçu l'exaucement de sa prière. Plusieurs fois, Jésus a remarqué autour de lui des gens dont la foi avait attiré son attention. Parfois même, des gens qui n'appartenaient pas à son peuple. Il disait, « Je n'ai jamais vu une foi pareille en Israël. » Ici, Jésus veut vraiment voir cette personne. Qui est cette personne qui a une foi si grande pour recevoir l'exaucement de sa prière de cette façon-là? Qui est-elle? Et il se retourne pour voir qui est cette personne. Connaissez la suite de l'histoire, cette personne, cette femme se sentant surprise, cette femme surprise par la réaction de Jésus, va avouer devant tout le monde, finalement, faire ce que Jésus voulait, donner son témoignage, témoignage de sa foi et de l'exaucement de sa foi. Du regard, il cherche celui qui a vraiment la foi, la confiance totale en lui. Dans le même livre « Jésus-Christ » d'Ellen White, je lis ce paragraphe. « La foi qui sauve n'est pas simplement une acceptation intellectuelle de la vérité. Celui qui attend de tout connaître avant d'exercer sa foi ne peut recevoir la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas suffisant de croire qui est Jésus. Il faut une confiance absolue en lui. » La foi n'est pas une croyance. Tout le monde croit à quelque chose, parfois même à soi-même. Non, ce n'est pas la foi que Dieu cherche. Cette foi que Jésus recherche, c'est cette confiance absolue en lui. Jésus l'a trouvée chez certaines personnes qui l'entouraient. Des gens dépourvus, qui avaient peut-être déjà tout essayé, qui prenaient Jésus comme la dernière ressource, mais qui avaient conscience que c'était la seule qui leur restait. Jésus qui regarde aujourd'hui dans l'Église, trouve-t-il une foi comme celle-là? Lorsque Jésus regarde, trouve-t-il en vous, en moi, cette foi qu'il a trouvée dans cette femme désespérée? Le quatrième regard de Jésus se trouve décrit au chapitre 6 de l'Évangile de Marc. Au verset 34, il est dit ceci. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Quand Jésus sort de la barque, il voit devant lui une grande foule. Et le texte nous dit qu'il fut ému de compassion pour ces gens-là. Les disciples de Jésus avaient été fortement bouleversé par la mort de Jean-Baptiste. Et Jésus voulait les emmener à l'écart pour prendre un peu de vacances avec eux, pour leur permettre de faire leur deuil de celui qui avait été leur maître avant qu'ils ne viennent servir Jésus. Alors Jésus les avait emmenés de l'autre côté du lac. Mais les gens ont suivi les barques du regard, de sorte que lorsqu'ils sont arrivés de l'autre côté, eh bien cet endroit n'était plus un endroit tranquille, la foule était là de nouveau. Le texte nous dit que Jésus vit cette foule et il fut ému de compassion pour elle. Parce que c'était un troupeau, disait-il, sans berger, des gens sans instruction, des gens qui ne savaient rien et qui venaient là où ils pouvaient recevoir cette instruction. Jésus ne voulait pas les frustrer, il voulait leur donner ce dont ils avaient besoin. Jésus avait de la pitié pour eux parce qu'ils étaient comme un troupeau sans berger, personne pour les conduire. Personne pour leur dire comment vivre, comment faire, comment croire. Jésus était finalement le berger qu'ils cherchaient. Jésus a eu beaucoup de compassion en voyant ce grand troupeau. Mais lorsque Jésus me regarde et nous regarde aujourd'hui, a-t-il aussi cette compassion envers nous? A-t-il cette compassion parce que nous avons une ignorance immense? Parce que nous ne savons pas comment faire dans la vie parce que nous n'avons pas la moindre idée de comment vivre la vie chrétienne. Et Jésus veut nous donner tout ce qu'il a. A-t-il de la compassion pour notre ignorance? A-t-il de la compassion pour notre faiblesse? A-t-il, Jésus, de la compassion pour notre lenteur à comprendre, à le suivre, à le recevoir? Le cinquième regard de Jésus se trouve un peu plus loin dans ce même chapitre. Vous vous souvenez que ces gens, en réalité, n'étaient pas simplement démunis spirituellement, mais à la fin de la journée, ils avaient faim. Et Jésus va donner à manger à toute cette foule avec trois fois rien. Jésus a nourri cette foule spirituellement pendant toute la journée. Il leur a enseigné longuement les voies du Seigneur, pour qu'ils comprennent et qu'ils puissent ajuster leur vie maintenant en fonction de ce qu'ils avaient reçu. Mais cette foule est aussi affamée et Jésus va leur donner à manger. Mais Jésus fait quelque chose d'intéressant Et ça nous est rapporté au verset 41. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit le pain, le donna aux disciples, afin qu'ils les distribuent à la foule. Vous retrouvez dans ce passage ce que nous faisons lorsque, effectivement, nous nous présentons devant la table de Sainte-Cène. Mais vous remarquez, Marc a pris soin de dire « levant les yeux vers le ciel ». C'est un regard de reconnaissance que Jésus lève vers Dieu. Reconnaissance pour le pain qui est devant lui. Reconnaissance pour le peu qu'il a. Reconnaissance pour ce petit garçon qui lui a apporté son casse-croûte que lui avait prévu. Reconnaissance de ce que Dieu va faire par lui pour nourrir cette foule, matériellement et spirituellement. Reconnaissance pour vous et pour moi. Alors lorsque Jésus lève les yeux avec reconnaissance vers son Père, peut-il le faire avec reconnaissance à cause de moi, à cause de nous ? Parce que nous l'avons reçu, parce que nous avons marché suivant son exemple, parce que nous allons à lui pour être nourris. Est-ce que Jésus peut prier le Père avec reconnaissance à mon sujet, parce que je suis venu manger ce pain et boire ce jus de raisin, symbole de son sacrifice, pour recevoir la paix qu'il donne à tous ceux qui le prennent? Est-ce que le Seigneur Jésus peut remercier son Père de l'œuvre que le Saint-Esprit a pu accomplir dans ma vie? Le Seigneur Jésus peut-il avoir de la reconnaissance pour ce qu'il voit dans mon existence? Le 6e regard de Jésus qui a attiré mon attention se trouve un peu plus loin dans l'évangile de Marc, au chapitre 8. Jésus était parti avec ses disciples hors du territoire d'Israël pour prendre du repos cette fois. Ensemble, avec ses disciples, Jésus prend du temps pour les instruire. Il va leur demander s'ils sont au clair sur qui il est. Qui dites-vous que je suis? Et vous vous souvenez que Pierre avait au nom de tous fait une profession de foi extraordinaire. Il avait dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et Jésus lui avait dit « Cette profession de foi, Pierre, c'est le Saint-Esprit qui te l'a inspirée. Ce n'est pas quelque chose qui vient de toi, c'est ce que Dieu a mis dans ton cœur. » Et puis, Jésus nous dit le texte au verset 31, « commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs, par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. » Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprima Pierre et dit « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Incroyable de voir un homme comme Pierre qui, dans un instant, est félicité par Jésus parce que ce qu'il dit vient du Saint-Esprit et dans l'instant d'après, lui dire « Retire-toi, Satan !» Ce n'est pas exactement un compliment. Et je pense que Pierre a dû être saisi comme les autres disciples par la manière radicale avec laquelle Jésus s'adresse à eux. Remarquez, Marc souligne le fait que Jésus se retourne et regarde ses disciples. Jésus a perçu dans ce que Pierre lui dit, dans la réaction de ses disciples, quelque chose qui est tout à fait semblable à ce que le diable lui avait proposé au désert, c'est-à-dire passer à côté de la croix. Pour les disciples, il était inconcevable que Jésus meure. Et Pierre lui dit, « Non, non, Seigneur, tu déprimes, arrête de penser des choses pareilles, tu ne vas pas mourir, voyons, d'ailleurs, nous sommes là. » Et Jésus comprend qu'il y a dans ces paroles de Pierre la même tentation. « Tu n'as pas besoin d'aller à la croix si tu veux les royaumes, il suffit que tu m'adores. » C'est la raison pour laquelle Jésus réagit avec tant de force pour faire comprendre à ses disciples qu'ils peuvent être, sans le savoir, des agents de l'ennemi. Faire finalement le jeu du diable lui-même et d'être eux-mêmes une tentation pour Jésus. C'est un regard de reproche et de réprimande que Jésus tourne à ce moment-là vers ses disciples. Réprimande parce qu'ils ne réalisent pas qu'en prenant sur eux la responsabilité de dire à Jésus ce qu'il faut faire, ils sont en train de faire le jeu de l'ennemi. C'est un regard de reproche qu'il pose sur ses disciples, car ils ont besoin de comprendre à quel point, lorsqu'ils font confiance à leurs idées, à leurs perspectives, à leurs plans, à quel point, en faisant de la sorte, ils jouent le jeu de l'ennemi et ne sont pas, en fait, des disciples de Jésus. Alors, lorsque Jésus nous regarde, voit-il en nous des hommes et des femmes et des jeunes qui donnent à son sacrifice toute la valeur qu'il a? Trouve-t-il en nous des gens qui ont compris la puissance du sacrifice de Jésus depuis le début jusqu'à la fin, depuis le moment où Jésus a accepté de venir dans ce monde jusqu'au moment où il a expiré sur la croix? Avons-nous valorisé son sacrifice comme nous devons le faire? L'avons-nous banalisé avec le temps, avec le fait de connaître cette histoire, de l'avoir rabâchée, lue et relue 36 fois? A-t-elle perdu de sa force? Et ce matin, nous nous présentons justement devant les symboles de son sacrifice. Est-ce que la routine a fait que finalement, ce sacrifice n'a plus beaucoup de sens pour nous? Vous vous souvenez, l'apôtre Paul, après avoir fait dans la ville d'Athènes un discours extraordinaire, est allé à Corinthe et il disait « Je n'ai eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ ». Et Jésus-Christ crucifié. Le même auteur, l'apôtre Paul, dans la même épître aux Corinthiens, d'ailleurs un peu plus loin, au chapitre 11, avertit les membres de cette église et leur dit « Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. » Paul veut rappeler là quelle est l'importance du sacrifice de Jésus et des symboles qui le représentent. C'est parce que les disciples de Jésus ne voyaient pas dans son sacrifice quelque chose d'utile, de nécessaire et d'important que Jésus les reprend et leur fait comprendre que leurs pensées ne sont pas dans la ligne du plan de Dieu, mais leurs pensées sont des pensées humaines. Alors lorsque Jésus nous regarde, il est possible que Jésus ait à porter sur nous un regard de reproche parce que nous n'avons pas encore compris ce qu'il attend de nous, parce que nous n'avons pas donné gloire à ce qu'il a fait pour nous comme nous aurions dû le faire. Est-ce que Jésus aujourd'hui pose sur nous des regards de reproche? Le septième regard de Jésus se trouve un peu plus loin dans l'Évangile selon Marc au chapitre 10. Évangile selon Marc, chapitre 10. Un jeune homme vient voir Jésus. Cet homme est riche. Nous ne connaissons pas son nom, c'est la raison pour laquelle nous l'appelons le jeune homme riche. Cet homme est bien disposé. Cet homme a fait tout ce qu'on lui a demandé. Mais il sent qu'il y a encore un vide dans sa vie. Et il vient voir Jésus, espérant avoir là la solution. Il a tellement fait, il se demande, qu'y a-t-il encore que je dois faire pour être sauvé? Et c'est ce qu'il va demander à Jésus. Cet homme est de bonne composition. Cet homme est bien disposé. Cet homme veut bien faire et il a bien fait. Et il le dit depuis mon enfance, je fais ce qui est bien et ce qui est droit. Mais il se rend compte qu'il manque encore quelque chose. Vous vous souvenez comment Jésus conduit cet homme à comprendre qu'il y a plus que faire. Et il va lui demander quelque chose de simple et d'impossible à la fois. Vous vous souvenez, Jésus lui dit d'aller et de vendre tout ce qu'il a et de le donner aux pauvres. Mais cet homme est très riche. Et cet homme ne peut faire cela que si son cœur est changé d'abord. À partir du verset 21, il est écrit ceci. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. » Jésus a vu dans cet homme quelqu'un qui cherche sincèrement ce qu'il doit faire pour être sauvé. Et Jésus, qui regarde cet homme droit dans les yeux, aime cet homme parce qu'il n'est pas faux comme tous ceux qui viennent lui poser des questions pièges. Ce n'est pas un piège, c'est un homme sincère. Il lui dit, Seigneur, il me manque quelque chose malgré tout ce que j'ai fait. Dis-moi ce que je dois faire. Et Jésus, en fait, lui répond, tu dois naître de nouveau. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Et j'aime ce passage parce qu'il nous montre que même si nous ne sommes pas sur la bonne voie, même si nous nous trompons par rapport à ce que Jésus demande de nous, même si nous ne le connaissons pas suffisamment pour être parfaitement en harmonie avec son plan, si nous venons le voir avec sincérité, Jésus posera ses regards sur nous et il nous aimera pour nous amener dans le bon chemin. Comme il a voulu le faire avec cet homme riche. Jésus aime cet homme parce qu'il est engagé. Il n'a pas peur de faire, il n'a pas peur d'agir, il veut faire, il est prêt. Il est simplement mal orienté et Jésus veut lui montrer qu'il y a une autre piste à suivre. Celle de la conversion qui lui permettra de réaliser ce que par lui-même il ne peut réaliser tout seul. Alors Jésus aujourd'hui, lorsqu'il me regarde-t-il avec ce regard d'amour, voyant en moi un potentiel énorme, une sincérité profonde, une quête réelle de sa présence? Nous avons par ce message biblique l'assurance que Jésus nous aime et veut nous mettre encore aujourd'hui au bénéfice de son sacrifice. Aujourd'hui, nous voulons nous présenter devant la table que Jésus nous a donnée, qui porte les symboles de son sacrifice, de son amour pour nous. Et Jésus, comme il le faisait de ce temps-là, regarde ses disciples. De quelle manière me regarde-t-il aujourd'hui? Quel regard Jésus pose-t-il sur vous, sur moi? De quel regard de Jésus ai-je besoin? Et nous avons l'assurance, en relisant les évangiles, nous nous en rendons compte, Jésus va poser son regard sur son disciple en fonction de ce qu'il a besoin de recevoir de la part de Jésus. Un encouragement, une réprimande, de la compassion, de l'amour pour nous conduire plus loin. Jésus aujourd'hui va porter sur nous son regard en fonction de nos besoins. Et j'aimerais pour terminer que nous puissions prendre pour nous cette promesse qui se trouve dans le livre des psaumes, le psaume 32, qui est précisément consacré à la repentance et à la demande du pardon. Dès les premiers versets, il est dit « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. » Et au verset 8, une promesse extraordinaire est faite, elle est pour nous aujourd'hui, où Dieu dit « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Amen.